Alors, n'hésitez pas désormais à intervenir en vocal hein, si vous souhaitez poser des questions. Si vous voyez que c'est en train de discuter, vous pouvez les noter avec les petites émoticônes dans le chat. Et ben moi, je vais enchaîner direct. Tu parlais, si je dis pas de bêtises, de Shelby Family qui se retrouvait notamment sur Discord. Ça m'a étonné, étant donné que j'avais l'impression que Discord, c'était pas ultra sécure en termes d'anonymat ou des regards qu'ils ont sur l'utilisation que tu en fais, de ce qui tourne sur ta bécane, etc., etc. Donc ça m'étonnait que des hackers se retrouvent dessus. Après, tu disais qu'ils changeaient régulièrement chaque semaine. Mais malgré tout, ça me paraissait risqué.
Ouais, ça paraît assez gros au final. Et je pense que c'est un petit peu cet ego-là qui un jour va les mener à leur perte. Mais il faut savoir en fait que. Et ça, cette stratégie, on peut quand même l'adopter ou à dire que elle est pas forcément idiote, c'est de se plonger dans la masse. Alors, Anonymous, ils ont fait ça à un moment, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient assez surveillés sur leur chat IRC et assez mis en avant. Bah, ils se sont fondus dans la masse en se mettant dans les fan clubs d'Anonymous sur les réseaux comme Facebook, Twitter, etc. Et ont mené des opérations un petit peu entre les fakes, on va dire. Et ça, c'est un petit peu une bulle d'anonymat qu'on ne va pas forcément avoir sur l'instant T pour l'individu, mais sur l'effet de masse. Beaucoup de serveurs Discord, beaucoup de boulot, pas forcément une grande sécurité derrière. Et c'est vraiment cet ingrédient, on va dire, qui va créer le portail de l'anonymat. Maintenant, c'est clair que c'est pas la chose phare. Mais comme j'expliquais, la Shelby Family, ils ont souvent des aspirants ou des employés qui vont réellement faire la partie communication et vente. Donc eux, en fait, peuvent encore se cacher un petit peu derrière eux. Quel niveau de
Ok, merci.
confiance peut-on avoir, même avec les gros éditeurs qui se font hacker et qui attribuent du software volé, exemple les attaques SolarWinds. Bah ça, c'est pareil, c'est comme si tu reprenais ces cleaners qui, pendant quelques temps, ils ont eu un virus qui était carrément dans leur logiciel. Malheureusement, tu peux pas forcément faire confiance à tout le monde, mais la meilleure solution qu'on peut avoir, c'est quand tu peux faire ton logiciel, bah, fais-le toi-même. Au moins, tu seras sûr de ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu comme tout, hein. Quand vous allez au restaurant et que vous mangez un plat, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a dans l'assiette, bah, le mieux, c'est de le faire chez soi. Maintenant, il y a certains logiciels, forcément, on ne peut pas les faire au niveau de complexité ou de compétence. Et ça, malheureusement, les mieux à faire, bah, soit vous prenez les têtes de liste, soit vous prenez ceux qui sont un peu méconnus. Ça, c'est au choix des personnes. Soit vous évitez le trafic, soit vous prenez justement le trafic en pensant que derrière, il y a beaucoup de sécurité. Et ça, ce niveau de confiance, en fait, c'est la même confiance que vous avez quand vous allez cliquer sur un site internet. Vous allez fournir votre adresse IP si vous n'avez pas de VPN, vous allez fournir des informations sur votre navigateur, sur votre adresse MAC, etc., etc., etc. Et ça, faut faire confiance sur cet internet pour être sûr qu'il ne va pas les utiliser de manière malveillante. Ça, c'est un petit peu la roulette russe. Tu penses quoi de la sécurité des systèmes SADA, Modbus, etc. Ouais, merci Jérémy, c'est très gentil de ta part. Je pense quoi de la sécurité de ce genre de système? Bah, on va retourner à la question. Jérémy, t'en penses quoi? Non, sérieusement, pour parler franchement, j'ai pas forcément beaucoup d'avis là-dessus. Autant je peux avoir des avis sur pas mal de choses, autant sur ça, j'ai pas trop envie de justifier. Peut-être que toi, Jérémy, tu pourrais plus nous faire une parenthèse si tu veux prendre la parole. J'ai pas envie de dire des conneries.
J'en parlerai dès que ce sera plus enregistré, du coup. Et ouais, je vais en parler après.
Ça marche. On attendra que ce sera plus enregistré. Voilà. Quelle protection antivirus a privilégié pour l'homme de la rue? Wow. Bah, forcément, c'est un antivirus payant, principalement. Maintenant, tous les antivirus se valent et ne se valent pas. Ça dépend de comment tu veux prendre ton antivirus. La meilleure chose déjà, c'est d'en avoir un, ce qui est pour 80% des gens déjà un exploit. Ouais, Casper Sky. Il y en a certains qui vont me dire Havas, c'est bien, d'autres qui vont me dire c'est nul. Sur les antivirus, moi, j'ai pas forcément beaucoup d'avis à te donner. Je vais te dire, à partir du moment où tu en as un qui est payant et qui tient la route, c'est déjà bien. Mais pour moi, je considère qu'un antivirus qui soit bien, il suffit pas d'en avoir qu'un seul. Il y en a qui aiment bien faire de la polyvalence, ou par exemple avec Havas, vous allez avoir un antivirus, une zone de quarantaine, une analyse de malware et une analyse et un effacement des cookies. Moi, je préfère avoir plusieurs logiciels, quitte à être forcément un peu dérangé de temps en temps parce qu'ils ne sont pas forcément automatiques. Mais par exemple, sur une solution gratuite, moi, je considère qu'un Avast en version gratuite, déjà, c'est correct. Tout dépend de ce que vous faites comme navigation, mais une navigation de base, c'est correct. Un Avast, un Malwarebytes et un CCleaner peuvent être une solution gratuite et qui peut être correcte pour ce qu'ils proposent, en tout cas, au niveau de la gamme. Oui, Melk.
Quand tu parlais de certains pays qui étaient visés, à une époque, j'avais vu sur le net, si je dis pas de bêtises, un site qui s'appelait Northmap peut-être, qui prétendait montrer en live les attaques qui avaient lieu sur des pays, des institutions. J'ai plus retrouvé ce site. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais pourquoi il a fermé?
T'en as différentes qui font les attaques de la différents sites internet qui font des attaques en temps réel. T'as Cybermap avec Kaspersky qui en a un. Je le donner d'ailleurs si tu veux.
Tu veux dire qu'ils montrent en temps réel les attaques qui ont lieu?
Oui. Après, ça, comme je te dis, c'est des attaques qu'on dit qui sont en temps réel. Faut faire attention à ce genre de choses. C'est souvent les attaques qui vont être signalées. Pas forcément les attaques ou qui vont être reconnues par les hébergeurs.
Ok.
Hébergeurs, cookies, etc. C'est pas forcément toutes les attaques. Ça peut être le gros paquet. C'est comme si tu as un délit routier et que tu te fais signaler, quoi. Si ça se trouve, tu as un mec à côté sur une petite route de campagne, bah, il va pas se faire chauffer, lui. C'est la même
Ouais.
chose. Donc ça va pas tout remettre, mais ça va mettre les principaux flux, quoi.
Ok.
Son, une question.
Yes. Yes. J'avais vu quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça qui m'avait surpris sur justement les Chinois et le niveau qu'ils avaient par rapport justement à tout ce qui est cybersécurité. Et les informations disaient qu'apparemment ils n'étaient pas. Vraiment au niveau par rapport à ce qu'il y avait aujourd'hui, c'était pas la pointe du tout. Ça me surprenait. Donc je sais pas ce que vaut cette info. À quel point finalement les Chinois dont tu parlais tout à l'heure, à quel point ils sont dangereux, qui sont les plus dangereux aujourd'hui? Est-ce que ce serait des groupes chinois, américains? Parce qu'on parle beaucoup d'attaques russes et chinoises, très peu d'attaques américaines. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas? Est-ce que parce qu'elles passent plus sous silence? Est-ce que parce que ça dérange moins quand c'est américain? Je sais pas.
Bah, déjà, avoir des groupes de hackers qui sont en Russie, en Chine, ils vont passer par les petites mailles du système. Il faut savoir que les États-Unis, la plupart des installations que vous pouvez avoir sur des serveurs Microsoft, Windows, etc., c'est eux qui les ont conçus. Mais en tout cas, c'est Microsoft qui les a conçus. Donc, ils ont un petit peu les portes ouvertes, hein. Il faut savoir qu'ils utilisent des ports Internet, ça a été créé par l'armée américaine. Faut savoir qu'il y a des portes dérobées que la NSA et la CIA utilisent très régulièrement. Donc il n'y a pas forcément cette utilité d'avoir des groupes de hackers, entre guillemets des corsaires. Que voilà, hein, c'est un petit peu le but de ce genre d'hackers qui sont soutenus. Maintenant, il y en a. Hein. Il y en a forcément, que ce soit dans l'armée ou dans le civil. Mais il faut savoir aujourd'hui que même si on parle souvent Russie, Chine, États-Unis au niveau cyberguerre ou cyberattaque, on oublie beaucoup les nouveaux pays qui sont en voie de développement de groupes de hackers. L'Inde est un des meneurs à l'heure actuelle au niveau des pays en voie de développement. Le Brésil aussi qui commence à pas mal monter. Et après, vous allez monter sur tout ce qui est le Vietnam, la Thaïlande. Toutes ces petits archipels en fait qui font créer réellement cette bulle ou cet écosystème qu'on va avoir dans quelques années du groupe de hackers malveillants. En Indonésie, ils ont de très gros groupes, que ce soit par exemple pour le milieu activiste au niveau Anonymous, ce qu'on appelle l'Anonymous Squad par exemple, où ils sont très organisés et qui sont très ils sont montés en fait en niveau de compétence un niveau de compétence qui est semblable aujourd'hui aux compétences que vous pouvez trouver dans le milieu professionnel de la France. Voilà. Pour le premier rempart, quel firewall géré par les routeurs de Monsieur Tout-le-Monde, Livebox, Rebox, que penses-tu des récentes failles qui ont été visiblement exploitées? Mieux vaut avoir un autre firewall derrière. En fait, c'est comme tout, hein. C'est est-ce que tu considères seulement avec ton opérateur être en sécurité au niveau des recherches que tu vas faire sur le net, ou est-ce que ça ne va pas suffire? C'est ça en fait qu'il faut vous poser comme question. Si vous demain vous achetez une voiture, est-ce que vous allez prendre une voiture qui, au bout de 100 km, elle va tomber en panne d'essence, ou est-ce que vous allez en prendre une un peu plus chère qui va, au bout de 400 km, tomber en panne d'essence? Ça dépend en fait de ce que vous allez faire sur le web. C'est manque. Alors, le meilleur des sécurités, forcément, c'est d'avoir des firewalls différents, c'est d'avoir des VPN différents, c'est d'avoir des antivirus payants. Parfois des VPS faits soi-même, mais il faut savoir que tout ça, ça a quand même un coût, et que tout particulier ne peut pas forcément se payer un VPN, un antivirus, un anti-malware, etc. etc., etc. Oui, forcément que c'est bien d'avoir un autre firewall que ceux que tu peux avoir de base, cap. Maintenant, ça dépend réellement de ce que tu veux faire, quoi.
Je me permettais de juste de rebondir, c'était par rapport à ce que tu disais, que c'est l'avenir, c'est maintenant, ça va être le particulier qui va être ciblé. Donc c'était un peu le pourquoi de ma question pour arriver à amener dans le futur cette protection, ce premier niveau de protection en plus.
Bah, ce qui serait intéressant dans le monde de demain, qui serait beau d'ailleurs, parce que c'est un grand rêve, ça serait que à l'école, vous ayez des cours d'informatique qui parlent de cybersécurité. C'est, je le répète assez régulièrement, que ce soit dans des locaux ou dans des conférences. C'est en Russie, quand ils sont gamins, ils apprennent à monter une Kalachnikov. En Chine, quand ils sont gamins, ils apprennent à coder. En Allemagne, quand ils sont jeunes, et ils apprennent à faire beaucoup de sport, comme dans certains autres pays de l'Est. Bah, nous, en France, nos cours d'informatique, si on apprend à écrire avec un Word, un Excel, on a déjà un niveau scolaire assez élevé. C'est ça qui est un peu triste dans l'éducation française, mais ça, il y a beaucoup de retard dans pas mal de domaines. Et si on pouvait avoir quelques cours juste à dire, on ne publie pas forcément des photos sensibles de soi, on ne met pas forcément son identité, ou on ne donne pas son nom et prénom à un inconnu, etc., etc. Déjà, avec cette base-là, on pourrait protéger de nombreux mineurs. Et les mineurs, la plupart du temps, que ce soit dans les pays en voie de développement, qui vont avoir une école qui va se créer, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des gamins qui vont apprendre et monter dans les classes supérieures, mais on va avoir des parents qui vont apprendre en même temps que les enfants. Et ça, c'est un principe et un fait. Que si à partir de demain on avait de la cybersécurité ou en tout cas de l'informatique, réelle informatique en école, on formerait les enfants, mais on formerait aussi les parents. Voilà. Faut-il envisager d'avoir deux PC chez soi, un relié au même et l'autre que l'on nourrit en data par clé ou par clé USB? Alors, avoir deux PC, forcément, c'est intéressant. Tout dépend de ce que tu veux faire avec. T'as pas forcément besoin d'avoir ce qu'on appelle ce PC relié au web et ce PC qui va te servir de base de stockage. T'as des systèmes qui existent. Par exemple, t'as des tokens, ce qu'on appelle des tokens, ce sont des clés USB sécurisées. Tu peux aussi avoir des disques durs sécurisés qui vont être des espaces de stockage. Donc, clés USB, port USB, disque dur externe, que tu peux débrancher facilement et qui sont très vite en hors réseau. Et qui vont permettre vraiment de sécuriser ta base de données. Par exemple, pas forcément obligé d'avoir un PC pour ça, et tu as des écritures sécurisées ou des tokens qui pour monnayant 50, 100 euros, tu peux avoir des choses assez sympas. Alors, Jérémy, pour répondre à ta question, la construction Nîmes, non, j'ai pas regardé. Mais maintenant, je vais étudier parce que tu me donnes des trucs sympas. Là, je pense que tu en parleras peut-être aussi hors enregistrement. Melk, je te laisse répondre à ta question.
Yes, tu avais dit un chiffre qui m'avait étonné au tout début, je crois, et corrige-moi si c'était pas ça, que 46% des cyberattaques venaient des États. Donc quasiment la moitié. Moi, naïvement,
ouais,
j'imaginais que c'était une majorité de entre particuliers ou de privés, en fait. Et là, non, la moitié, c'est les États.
Alors cet article, ce chiffre, entre guillemets, il me vient d'une revue qui a été faite, en fait, par Thales.
D'accord.
Donc Thales, entreprise française cotée au CAC 40. Et en fait, c'est une analyse qui est faite sur le Cyber Threat Handbook de Thales, en version anglaise, et qui explique en fait tous ces chiffres. D'ailleurs, je vais te la mettre aussi dans le chat librement. Je vais l'étudier. Voilà.
Donc, ça veut dire que c'est quasiment révélé publiquement que les États usent et abusent de techniques, entre guillemets, hors la loi, criminelles, pour attaquer d'autres États ou d'autres.
Ah oui, mais totalement. Mais de toute façon, tu reviens à quelques siècles en arrière, l'Espagne ou l'Angleterre, qu'est-ce qu'ils avaient sur les mers ? Bah, y avait des pirates. Donc, il y avait des pirates qui étaient sans loi, sans règles, et bien après, tu avais les corsaires, qui étaient des pirates qui appartenaient à des gouvernements. Bah, aujourd'hui, c'est pareil. Tu prends le virtuel, c'est la mer. Tu prends les États, bah, ils ont des corsaires, c'est juste des groupes de hackers qui vont financer ou qui vont former, mais c'est la même chose.
Parce que suite à ces chiffres, tu as dit à la fin, le dernier chiffre qui était, je crois, 2 ou 3% en tout cas, eux, c'était des groupes privés et autonomes de hackers.
Alors, en fait, j'ai dit 26% pour les groupes activistes, 20% pour les cybercriminels, donc ce qu'on appelle tout ce qui est groupe malveillant, et 5% les cyberterroristes.
Ah, d'accord. 5% les cyberterroristes. Parce que tu vois, en termes de clichés que t'en aurais quand t'écoutes les infos, t'as l'impression qu'en fait, la majorité des cyberattaques, eh ben, c'est des cyberterroristes. Alors que non, la majorité, c'est des États.
Ouais, la majorité, c'est des États. Mais en fait, ils vont pas être définis forcément directement. On va considérer que ce soit pour, par exemple, tu vas prendre APT ou Unité 180, 121 ou la Lazarus Group, tu vas dire c'est un groupe malveillant. Tu ne vas pas faire l'apologie en disant « ouais, on s'est fait pirater par la Corée du Nord ou on s'est fait pirater par la Chine ». Parce que déjà, derrière, quand tu vas accuser un pays et que tu n'es pas sûr que ça soit lui qui t'a piraté, puisque les IP peuvent être en Chine, mais le hacker il est en Russie, c'est incident diplomatique derrière. Enfin, c'est comme si tu dis « on a tiré sur un de mes militaires, mais on ne sait pas qui c'est qui a tiré ». Donc on va dire que c'est les Chinois. Parce que la balle qu'on a trouvée à l'intérieur, bah, c'est une balle qui appartient à une arme chinoise. Là, c'est un peu maigre, quoi.
En plus, il doit y avoir des tonnes d'attaques sous faux drapeau, du coup.
De quoi ?
Il doit y avoir des tonnes d'attaques, entre guillemets, sous faux drapeau, du coup, j'imagine.
Oui. Ah oui, totalement. Et de toute façon, quand tu reprends Anonymous, à un moment, a été laissé libre par certains États, parce que ça leur permettait de pouvoir avoir une couverture pour pouvoir attaquer d'autres pays. À un moment, Anonymous a été endigué tellement par les gouvernements, c'était une passe-forte dans certains pays, qu'en fait, on avait des marges de manœuvre et on se rendait compte qu'il y avait des pseudo-Anonymous qui allaient attaquer des hôpitaux ou des trucs. Parce qu'en fait, c'était les gouvernements soit qui voulaient faire tenir l'image du collectif Anonymous, soit qui voulaient en profiter pour attaquer certains pays. Ça, c'est pas étonnant.
Ah, d'accord.
Tu confirmes que 90% des échanges de mails mondiaux, c'est du spam attaque et seulement 10% c'est de l'utile. 90% ça me paraît gros, mais ouais, 70-80%, ouais, je dirais que c'est faisable. C'est faisable qu'aujourd'hui, au niveau du nombre d'adresses mail et de possibilités de mailing qu'on peut avoir, il y ait beaucoup de fraude. Alors, une donnée limite permanente, c'est pas étonnant. C'est quelque chose qui m'étonnerait pas. Par contre, sur les chiffres, je peux pas plus te les commenter que ça. Car... Voilà, une question.
Oui, tiens, tant que j'y pense, ça te paraissait crédible, les parties hacking qu'on voyait dans le bureau des légendes ?
Parties hacking que tu voyais dans le bureau des légendes, tu peux m'en dire plus ?
Je sais pas si tu vois, c'est une série qui avait fait un peu sensation, une série Canal, sur la DGSI. Et il y a pas mal de moments où tu suis dans leur bureau ou des défenses ou des attaques cyber. Mais si tu n'as pas vu, ouais. Tu peux en parler.
Ok, je vois un petit peu le genre de la série. Alors, il faut savoir que en MBO de la DGSI ou de la DGSE, c'est des cyberattaques en temps réel. C'est... Moi, ça me paraît un peu gros, quoi. Ils ont un peu trop de boulot pour faire ce genre de choses. Par contre, si tu vas au régiment de transmission de l'armée de terre, là, tu peux en avoir régulièrement, oui. Parce que l'armée qui fait la cyberdéfense fait aussi la, qu'on appelle la cyberaction. Donc, il y en a beaucoup qui diront que ce terme n'existe pas. C'est un petit peu les conflits entre spécialistes. Mais cette cyberaction, c'est le fait vraiment d'attaquer et de faire des offensives sur certains pays. Alors que la France fait des offensives sur certaines sur certains États, pas forcément des grosses puissances comme la Russie ou la Chine, mais plus des pays avec qui ils vont être en conflit. Exemple, sous le règne de Kadhafi, il y a eu de nombreuses attaques informatiques vers la Libye, tout pour paralyser les communications. Ouais, après, okay. On part en DGSE ou DGSI, comme je t'ai dit, tu prennes la DGSI ou la DGSE dans l'instant T, ce sont des organisations d'espionnage qui vont forcément à un moment faire du piratage. Maintenant, dire qu'elles sont en instant T, qu'elles font que ça, c'est 1% de toutes leurs activités, quoi.
Mmh. Bon, oui, je pensais à une scène en fait quand je demandais, quand je posais la question. En gros, il y a une scène où ils essayent d'attaquer, je crois, un centre en Russie. Et pour l'attaquer, ils passent, on va dire, par le proxy de plusieurs pays pour se faire des boucliers parce qu'ils savent qu'en gros, ils peuvent se faire, on va dire, tracer en retour. Et pour pas que ça remonte jusqu'à la France, ils passent par une dizaine de pays différents.
Et ça, ils font appelle des ponts.
Ouais, ils se font griller, et du coup, ils voient qu'ils commencent à se faire remonter de pays en pays, quoi. Ils arrêtent avant que ça arrive en France et tout.
Ça fait un petit peu film hollywoodien.
Oui.
Et vous voulez prendre un petit exemple et voir du réel hacking, pur et dur. Il y a une série qui s'appelle Mr. Robot. Tout ce que vous verrez au niveau code et hacking, c'est vrai. C'est totalement vrai. Le réalisateur a considéré que pour faire une bonne série sur la King, il fallait apprendre auprès de personnes spécialisées. Donc en ffait, tout ce que vous verrez au niveau des DDoS, attaques informatiques, qu'on appelle honeypot, donc pot de miel, tout ça, on peut le refaire dans la vraie vie. Et ça vous branche d'avoir une série vraiment spécialisée au niveau de la compétence, au niveau de la véracité des outils utilisés.
Ok, c'est noté.
Hop, hop. Que penses-tu du choix de la Russie qui a évidemment créé son propre internet en cas d'attaque majeure? Pour moi, c'est pas idiot de la Russie d'avoir fait ça. Comme la Chine qui a créé ses propres réseaux sociaux, etc. C'est pas du tout étonnant de faire ce genre de choses parce que déjà demain, un cyber-État qui va attaquer un autre cyber-État, la première chose qu'il va faire, c'est que, par exemple pour les États-Unis, puisque les États-Unis ont quand même beaucoup de réseaux sociaux et beaucoup de et ont l'internet, c'est assez facile pour eux du coup de pénétrer des systèmes informatiques qu'ils connaissent, parce qu'ils ont forcément les clés et les portes pour y rentrer. Alors qu'avoir des systèmes qu'ils ne connaissent pas, ça va être déjà plus compliqué pour eux. Donc forcément, c'est intéressant pour ce genre d'État qui sont assez importants et assez qualifiés au niveau du niveau de compétence de faire leurs propres infrastructures informatiques. Et pour moi, ça ne sera pas étonnant que la France, dans quelques années, s'ils arrivent à atteindre ce niveau de compétence, on soit capable de faire la même chose que fait la Russie ou la Chine et d'avoir cette autonomie ou cette indépendance du net. Oui, ça aurait un sens, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que nos serveurs, bah, ils sont... si les Américains veulent rentrer dedans, bah, ils y rentrent en fait. On n'a aucune sécurité en fait. On a la sécurité à proprement dit contre des attaques malveillantes, mais si demain la NSA veut rentrer dans nos systèmes, bah, ils y rentrent en fait. Et la moitié du temps, ils font même des limites, des clins d'œil à nos services à nous, en disant bah, regardez, je suis rentré chez vous, bah, alors il y a telle faille là, telle porte qui est ouverte. Voilà. C'est un peu de notre gueule.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des groupes qui fassent office de prestataire, on va dire, qui soient à la fois commandés pour faire une attaque et indirectement ou sans forcément qu'ils s'en rendent compte, je ne sais pas si c'est cloisonné, qui soient aussi demandés pour se protéger ou pour riposter et du coup s'attaquer entre eux, faire des guerres intestines?
Ouais. Alors il y avait un groupe aux États-Unis qui s'appelait la Fox quelque chose, je crois. Il me semble que c'était Fox quelque chose. Je sais plus le nom précis. Qui a bossé pour IBM. Alors qui testait les infrastructures pour être sûr qu'elles soient carrées niveau sécurité. Et qui se sont mis. Alors c'était des groupes de Black Hat. Et qui se sont réellement mis à attaquer d'autres gouvernements. Et qui ont créé cette relation avec le gouvernement américain en disant. Vous nous aidez si on a besoin de vous, pour telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, sinon vous créez une immunité entre guillemets sur les pays ennemis. L'Iran, c'est ce qui s'est passé. Hein. En Iran, ils se sont pris des cyberattaques, alors ils se sont fait bloquer les centrales nucléaires, mais ils se sont fait bloquer aussi de nombreuses entreprises de finance, etc. Alors que les Américains ont fait appel à des groupes malveillants pour faire ça. Et c'est pas du tout étonnant. C'est comme quand vous avez des mercenaires. Vous envoyez des mercenaires dans des pays, parce que vous ne pouvez pas envoyer votre armée régulière, sinon ça fait un incident diplomatique, et vous faites ce que vous avez besoin de faire dans les pays en question. Bah, les mercenaires, c'est pareil, les teams de Black Hat peuvent être payés par des États pour faire des méfaits. Pas étonnant. Je dirais même c'est régulier. C'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup de. Comme APT, APT par exemple, du coup le terme, APT 31. Qui est un groupe de hackers de base malveillant qui s'est fait affilier par le gouvernement chinois quand ils se sont rendus compte que leurs compétences valaient les hackers du gouvernement. Voilà. C'est pas du tout étonnant.
Je te demandais ça parce que je crois qu'à ton dernier livre blanc, tu nous avais parlé un petit peu des bah, de ce côté ouais, mercenaire, on va dire. Et que du coup, parfois, pour certaines commandes, ils voulaient même pas forcément savoir d'où ça venait, tant qu'ils touchaient leur argent, ils préféraient d'ailleurs même pas savoir certaines fois.
Oui, ça arrive. Je dirais pas que c'est régulier, mais c'est pas loin, quoi. Cap, y a-t-il de plus en plus d'utilisation d'IA dans le domaine? Oui. Ah oui, il y a beaucoup de systèmes qui se montrent à l'intelligence artificielle. Beaucoup aussi au niveau de l'armée. Il y a beaucoup d'innovations là-dessus. J'ai pas toutes les choses en main parce qu'il y a beaucoup de confidentiel forcément. Mais quand tu vas sur les conférences, que ce soit le hack à Paris ou la Toulouse Hacking Convention ou les différentes conventions que tu peux avoir à travers le monde, de plus en plus cette parole de l'IA. Je te laisse prendre la parole à Mazingu. J'espère que je dis bien ton pseudo. Vu que tu voulais parler.
Juste demander s'il y avait vraiment réel intérêt à prendre un antivirus en fait.
Bah, je vais te. C'est pas très correct d'utiliser ce genre d'exemple, mais demain, tu as un rapport avec une fille, est-ce que ça a une réelle utilité d'utiliser un préservatif? Voilà. C'est un exemple un peu grossier, mais ça fait la différence. Tous les virus que tu peux attraper niveau d'un, avec un sans préservatif, bah, c'est la même chose pour un ordinateur. Hein. Si tu vas échanger avec différents serveurs, à un moment, tu tombes sur des serveurs qui sont malveillants, bah, tu vas récupérer des virus. Et le problème des virus, en soi, c'est que ça peut ralentir ton ordinateur, donc ça, c'est pas trop grave encore. Par contre, quand c'est des spyware ou des keyloggers, des choses comme ça, et ben, en fait, à partir du moment où tu vas entrer, par exemple, tes numéros de carte bancaire, tu vas utiliser tes mots de passe et tout, bah, tout ça, tu vas te les faire piquer. C'est là que l'antivirus, il a réel cette nécessité, c'est un réel intérêt.
Mais après, il y a Windows Defender, normalement, il fait le taf, parce que les gars qui vont aller télécharger des antivirus comme Avast, etc., c'est des gens qui ont un seul rang, du coup, ils ont un PC qui est déjà limité, il va être surchargé par un antivirus qui, en fait, si tu fais de la simple navigation avec ton PC, tu n'as pas vraiment besoin d'un antivirus.
Ça, c'est à tes risques et périls. Non ? Après, si tu considères que Windows Defender est un bon antivirus, c'est ton choix.
Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est qu'on entend souvent l'argument du si tu fais pas n'importe quoi sur le net, t'as pas besoin d'antivirus. Genre, si tu fais que regarder tes mails, aller sur YouTube, j'en sais rien, aller Facebook, tu vas pas dans le dark web, tu télécharges pas. A priori, t'as pas besoin d'antivirus parce que tu vas faire des navigations clean. Est-ce que cet argument, il est
valide? C'est un argument qui est assez drôle, j'ai envie de dire. Que.
Bon, pour toi, c'est pas un argument.
Bah, demain, t'as ton meilleur pote à qui t'as une adresse mail. Son adresse mail se fait pirater, il t'envoie un PDF que tu ouvres, le PDF il est déroulé. Voilà. T'es pas allé sur des sites bizarres, t'as pas fait des choses cheloues, pourtant tu t'es fait. T'es pris un virus. C'est un exemple.
Et le Windows Defender est pas suffisant dans ce cas-là.
Windows Defender. Alors, c'est comme si tu voulais remplir un saladier d'eau, mais que c'est une passoire.
D'accord.
Je donne plein d'exemples comme ça, un peu logiques, un peu concrets. Windows Defender, ça a forcément une utilité. Maintenant, dire que ça vous protège, c'est une passoire. En tout cas, pour beaucoup de spécialistes en informatique.
Enfin, l'argument qui va au-delà de tout ça, en surcouche, en fait, c'est le côté, t'as beau avoir tous les antivirus que tu veux, si tu fais une erreur humaine de comportement ou de navigation, tu l'auras dans l'os.
Oui. Alors, l'antivirus ne va pas être là pour... ne va pas être là pour vous dire que vous allez être totalement sécurisé et que vous allez plus avoir de problème. Non, l'antivirus, il est là pour pallier à certains types. Ça veut dire les attaques aveugles, ça veut dire les trucs que vous allez pouvoir avoir sur des sites un peu bizarres ou qui ont été verrouillés et qui vont être bloqués ou mis en quarantaine, oui. Maintenant, si c'est une attaque précise, style comme par exemple des mails de phishing, ça va pas forcément être analysé comme malveillant par l'antivirus parce que ce n'est pas son but. Là, ça c'est des attaques un peu plus ciblées, on va dire. Oui, un antivirus, il va faire beaucoup d'attaques à l'aveugle. Il va dire, tiens, vous avez un virus, vous l'avez sur plein de sites internet, souvent des sites de e-commerce, je tiens un exemple, hein, de sites e-commerce, bah, il va être présent dans la zone de l'antivirus comme étant malveillant. Il va arriver sur l'ordinateur, ah, c'est malveillant. Un mail de phishing qui est fait précisément pour vous, avec votre nom, votre prénom, votre identité, avec vos goûts, etc., ça, il ne va pas forcément le voir. Parce qu'il ne l'aura pas vu avant, en fait. Ce n'est pas présent dans sa base de données. Alors, ça dépend du type de fichier, non ?
Si je peux reprendre la parole, désolé, il y a quelqu'un qui parlait.
Vas-y.
Pareil, si tu fais attention, parce que si tu es sur un site officiel, par exemple de ta banque, tu arrives, c'est plus le même thème, c'est plus les mêmes skins, tu vas t'interroger. Même si c'est ta banque officielle qui change le thème, ben, tu vas pas te connecter dessus, tu vas aller vérifier, tu vas attendre. Et tu es prévoyant quand tu fais attention. Et les emails de phishing, en général, ils contiennent toujours des fautes d'orthographe ou des fautes de caractère. C'est... Par attention, ouais. Et après, si y a un mail qui est douteux, ben, mail, c'est comme une publicité dans ta boîte aux lettres aussi, tu peux le jeter. Hein. C'est pas parce que tu as reçu un mail que tu es obligé de le lire. Hein. Et derrière, tu as les attaques au QR code, il y a eu il n'y a pas longtemps. Ça, comment tu fais pourtant? Ils ont scanné des QR codes et ils se sont fait vider des comptes de crypto-monnaie. Tu peux payer directement avec ton PayPal. Les gens qui ont des piqué tous les trucs automatiques, en gros, avec le OAuth, là, tu cliques une validation d'entrée, comme quoi tu as validé, ils peuvent te vider ton compte, etc. Et il y a de différentes attaques. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est la principale clé. Après, les logiciels antivirus, c'est une grande question. C'est comme tu parlais tout à l'heure de CCleaner qui était, qui contenait lui-même un virus. En général, les antivirus gratuits sont tout le temps en train de te dire que tu as chopé un virus, qu'il faut prendre la version payante et ils sont quand même assez douteux.
C'est la publicité aussi, c'est le gain de pain, forcément. Mais tu vois, tu prends aussi l'exemple, tu as pris QR code, on va continuer sur le monsieur tout le monde qui ne va pas sur des sites bizarres et qui n'a aucune chance selon lui d'avoir une infection. Tu trouves une clé USB dans la rue, tu la branches à ton ordinateur, qu'est-ce qui va t'arriver? Et ça, malheureusement, on va me dire, oui, nous on le fait pas, etc. Epitech à Nantes, c'est ce qui leur est arrivé, ils se sont tombés en rideau. Une école d'informatique, c'est ce qu'ils ont fait. Le responsable de l'informatique là-bas, il a branché une clé USB qu'il a trouvée dans la rue du trottoir juste à côté de l'école, et il s'est fait bouffer le réseau. Donc, ouais, ça, il ne suffit pas d'avoir forcément des compétences pour avoir la logique de dire, ah, là, je vais peut-être pas le faire. Et ça, si déjà avec des experts, entre guillemets, en informatique ou des responsables informatiques, on a ce genre de comportement, imaginez avec des particuliers qui n'ont pas ces compétences. Voilà. Tu disais que les groupes entre eux échangent de plus en plus et se professionnalisent, s'industrialisent. C'est plus emmener des choix d'État ou plus pour un côté recherche. Bah, ensemble, on est plus fort. Non, c'est que en fait, ce professionnalisme que vous allez avoir entre groupes de hackers, c'est souvent aussi ce que vous pouvez avoir avec les pirates. C'est vous comptez attaquer un gros bâtiment. Vous savez que tout seul, vous n'êtes pas assez nombreux et assez compétents, bah vous allez recruter une nouvelle team de hackers. Il faut savoir que dans les teams de hackers aujourd'hui, vous avez un mec qui va être spécialisé crypto, un mec qui va être spécialisé ransomware, un mec qui va être spécialisé brute force. Quand vous avez ce genre de compétences et ce genre de team, vous avez de temps en temps besoin d'avoir une alliance parce que vous allez attaquer un système qui est beaucoup plus vaste que vos attaques de base. Donc forcément, vous allez soit investir dans des outils qui ont été faits par des professionnels black hat un peu plus expérimentés, ou vous allez vous allier à d'autres teams. Ça, c'est comme tout. Comment fonctionne le marché de la zero day? Je pense par exemple à l'Argentine, gros gros lieu pour en acheter. Ouais, bah après, le marché de la zero day. C'est l'Argentine, oui. C'est un pays qui, comme tu dis, qui en achète pas mal. Tu peux en voir aussi dans les pays d'Indonésie. En fait, je pense que tous les pays en voie de développement, le 0D, ça tourne plutôt pas mal. Est-ce que tu me diras, RM, à ce sujet-là? Mais pour moi, je pense que ça justifie bien un peu la chose. Est-ce que. Au vu des différents centres de data déjà existants, l'avenir du hacking ne serait plus qu'à l'engineering social et encore plus en recueillant des infos de l'entourage de la cible, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ou bien le Facebook qui existera toujours. Ouais, je relis ta question dans ma tête parce que j'ai pas tout compris.
Tu veux que... Attends, je vais la poser en vocal.
Non.
En gros, c'était demandé, quand je parlais des data, oui, c'est vrai qu'elle n'avait pas bien formulé ma phrase. Quand je parlais des data, c'est vu que on a des agrégations de données sur les gens et que de ces données, on en tire d'autres qui sont bien plus pertinentes au niveau de l'ingénierie sociale. Eh ben, est-ce qu'à terme, on ne va pas avoir que des attaques tournées vers ça? Et non plus vers la force brute, comme on a pu voir. En fait, c'était, comment dire, avoir une idée du ratio force brute contre ingénierie sociale.
Pour moi, forcément, que ça va aller en ce qu'on appelle, alors c'est Schumpeter qui a dit ça, ce qu'on appelle une destruction créatrice, Joseph Schumpeter. Ça veut dire que quand tu innoves dans un produit, forcément, le produit que tu avais à la base va être inutile ou va être obsolète. Ça marche un petit peu pareil dans les techniques malveillantes. Par contre, dire que le brute force n'existera plus à un moment, moi, j'y crois pas trop. Parce que ça reste quand même aujourd'hui encore une des techniques fortement utilisées. Fortement utilisées. Même si on le voit plus, par exemple, je sais pas, pour les groupes d'État ou les cybercriminels, on les verra encore dans les groupes activistes, parce que ça reste, eux, leur fer de lance. Je pense avoir
Ok,
répondu à tes questions.
selon toi, en fait, ça va plus être les États qui vont se. Oui, bah après, vu que c'est eux qui ont effectivement potentiellement plus facilement accès à ces gros vases de data. Mais non, je pensais que les j'allais dire les petits hackers, non, mais enfin, les indépendants réussiraient à lâcher la force brute. Et en fait, je pensais même déjà qu'il l'avait lâché depuis longtemps. Donc, enfin, depuis longtemps qu'il l'avait. Que l'avenir était beaucoup plus à recueillir des informations directement sur une cible. Mais bon.
Bah en fait, c'est très pour considérer un groupe. Alors, tu prends les cyber-États, les groupes d'hackers qui appartiennent à cyber-États, ce que j'appelle les corsaires, les cybercriminels, cyberterroristes, cyberactivistes. Tu prends le triangle, en fait, ce qu'on appelle le triangle de résolution. Ça, c'est un exemple que je donne bien. En fait, à dire que comment il fonctionne. Alors, il fonctionne avec l'investissement. L'investissement apporte l'innovation, apporte des outils qui peuvent être plus expérimentés. Et des attaques qui peuvent être plus vastes ou sur des choses qu'on n'aurait pas forcément attaquées avant. À ça s'accroche l'innovation, donc évoluer dans ton système, monter en compétences, te développer, en apprendre plus. Et à la fin, tu as le ciblage. Avant, tu attaquais à l'aveugle, aujourd'hui, tu attaques plus précisément et tu te renseignes plus sur la personne que tu vas attaquer. Triangle de résolution. Alors, ça, vous ne le trouvez pas par contre sur les docs. C'est une création de mon moi intérieur. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est que tu prennes n'importe quelle entité, que tu prennes les cyberactivistes, etc. Que tu prennes les cyberactivistes, il n'y aura pas forcément ce moyen financier. Donc l'innovation, elle va être faite que sur ce que tu peux trouver en accessibilité sur le net. Et le ciblage, par contre, va rester précis parce que ce sont des groupes qui ont quelque chose à faire valoir dans leurs idées. Si tu prends des cyberterroristes, le financier, il va être un peu plus présent parce qu'il y a cet aspect de propagande. Les compétences, par contre, vont rester assez resserrées et le ciblage va être à l'aveugle. Parce que leur but, c'est pas forcément de taper un site ou un gouvernement, c'est de juste taper pour pouvoir dire on est présent. Les groupes criminels, forcément, il va y avoir cette innovation parce qu'il y aura cette recherche d'investissement et de revenus. Et tu auras un ciblage qui sera plus précis parce qu'on saura que ça va rapporter plus. Et après, pareil pour les groupes d'État. Donc ce triangle, il détaille un petit peu tout ça. Bon. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on pourra arrêter là au moins le recording.
Ouais, carrément. S'il y en a qui veulent s'exprimer avant que ça coupe, allez-y. Sinon, juste un petit mot de la fin, une petite conclusion, codeur.
En conclusion, merci à l'Afterthinking de nous avoir reçus, de m'avoir reçu surtout, puisque étant donné que je suis seul intervenant, et au plaisir de savoir sur un troisième podcast bientôt.
Ça
Merci.
marche, avec plaisir.
Merci.
Merci beaucoup.